l'étrange beauté du quotidien. Écoutez avec les yeux les vies extraordinaires de gens ordinaires.
Chères auditrices de l'étrange beauté du quotidien, je dois vous avouer quelque chose aujourd'hui. Il paraîtrait que je suis du genre têtu. Cabezona, comme on dit en espagnol. La tête dure, entêtée, butée. Que des mots que je trouve très laids, sans trop savoir pourquoi. Alors vous imaginez bien que je suis allée fouiller un petit peu de ce côté-là. J'avais envie de comprendre pourquoi je ne les aime pas, ces expressions, et pourquoi m'a-t-on collé cette étiquette depuis toute petite ? Est-ce lié tout compte fait ? Déjà, en prenant le temps de lire la définition du terme têtu, il y a quelque chose qui me dérange. Écoutez ça. Qui est obstinément attaché à ses opinions, à ses décisions, qui est insensible aux raisons, aux arguments qu'on lui oppose. Et là, je me dis que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand je repense aux personnes qui me disaient ça petite et moins petite. Je n'irai pas plus loin. Franchement. Quand je regarde un peu mon parcours de vie, mon cheminement intellectuel et psychologique, je sais pourquoi je trouve que ce mot ne me sied pas du tout au teint. Mais quand même, je ne peux pas m'arrêter là parce que ça ne peut pas être totalement à côté de la plaque non plus. Alors, cherchons d'autres synonymes. Acharné, tenace, insoumis, volontaire, persévérant, opiniâtre. Et là, je dis oui, je dois bien admettre que je me reconnais davantage dans tout ça. En effet, je reste ferme dans mes résolutions ou attitudes, et ce que j'entreprends, je le fais avec persévérance, acharnement, détermination. J'ai tendance à rien lâcher, comme on dit. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, vous allez me rétorquer. Eh bien, il se trouve qu'il m'a fallu plus d'un an pour convaincre mon invité du jour qu'elle avait toute sa place ici dans les studios de la Radio Syllabe. Et il se pourrait bien qu'elle aussi en ait collé l'étiquette de « têtu, tête dure », etc. Nous le confirmera-t-elle, qu'importe in fine, car elle est là et bien là. Bonjour Anna, merci pour ta présence et bienvenue à toi.
Bonjour.
Tout d'abord, pourrais-tu nous dire rapidement, comme une mini-introduction, qui est Anna Sauvage ?
Eh bien, je suis Anna Sauvage Créache même. Puisque...
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, je suis mariée. Je suis la maman de deux filles et je suis comblée avec ma compagne Martha Créache. Et avec qui on a fêté nos 20 ans. Et voilà, c'est, je pense, j'ai plein de facettes, mais je pense que c'est cette facette-là qui me convient le plus. Enfin, que j'ai envie de mettre en lumière, en tout cas.
Avant de nous lancer, j'explique en quelques mots le principe de cette émission. C'est par le biais de photos et de musique que nous allons découvrir la vie de notre invitée. Dans la première partie, nous partirons de ses choix à elle, une photo et une chanson. Puis, dans un deuxième temps, il s'agira de découvrir mes deux choix à moi. Mais ne perdons pas plus de temps, entrons dans le vif du sujet avec ta photographie. Anna, je te la montre, enfin tu l'as déjà, la photo que tu m'as envoyée en amont, et je te laisse le soin de la décrire avec le plus de précision possible afin que les auditrices puissent se l'imaginer au mieux. Tu peux parler des différents plans s'il y en a, les couleurs, des détails.
Ok. Et bien alors du coup, il s'agit d'une photo en gros plan d'un bout de table où il y a moult choses et il y a notamment un bavoir qui est en train d'être brodé avec différents fils de couleurs mais avec des couleurs bien précises puisque ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Et en fait ce bavoir commence à être brodé, donc on peut voir un I love mais qui n'est pas encore terminé, avec un O qui est en forme de cœur. Et au-dessus, il y a déjà un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, déjà, les...
Oui, je retrouve plus.
C'est un nom bien précis.
Je ne me rappelle plus.
Bref, ce qui permettait de cacher nos trous dans les genoux quand on était enfant, en forme de cœur. Et lui aussi est aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, c'est en gros cette table de travail de broderie qui est prise en photo.
Et pourquoi as-tu choisi précisément ce cliché ? Qu'évoque-t-il pour toi ? Que raconte-t-il de toi ?
Eh ben, il raconte pas mal de choses, parce que du coup, il y a un peu de tout là-dedans. Ça évoque mon homosexualité via les couleurs de la Gay Pride. Et du coup, aussi le bavoir, c'est pour... Parce que c'est, en fait, c'était l'occasion pour... de faire la Gay Pride avec notre première fille, et qui était à peine âgée d'un an pour cette première Gay Pride. Et du coup, on lui avait fait, enfin, Martha lui avait fait, parce que moi, je suis vraiment un enfer en broderie et en tout ce, et couture, pour le coup. Et du coup, elle avait fait ça magnifiquement bien. Et du coup, Gabi, Noah, n'importe quoi, Gabi, c'est le nom de ma deuxième, mais il faut absolument qu'on fasse la Gay Pride avec Gabi.
Et c'est un signe.
Voilà, c'est ça. C'est un appel. Et du coup, voilà. Donc, ça, ça parle de tout ce qui me fait, en fait, puisque mon homosexualité, ben, c'est pas du tout quelque chose que j'ai découvert sur le tard. C'est vraiment un peu déjà dès les bacs à sable, hein, pour le coup. Et c'est la concrétisation de ma vie et d'un bien-être. Parce qu'en fait, c'est... c'était un moment de joie, en fait, ce moment-là.
Alors moi, j'y vois un instantané, effectivement, en plongée, sans perspective, sans personne, mais rempli de couleurs acidulées, tu l'as dit, de petits objets divers et variés, dont un bavoir avec un cœur brodé. Alors moi, j'ai dit qu'il était brodé, mais je trouve toujours plus le terme, hein. Exact, oui. C'est pas grave. Ou une paire de ciseaux pour tout petit. Un instantané qui invoque pour moi le monde de l'enfance, la presque naïveté de l'enfance, la pureté de l'enfance. Et ça me donne envie de commencer par la tienne. Quel enfant étais-tu, toi? Quel souvenir gardes-tu de l'enfant que tu étais? Ah oui, je remonte loin.
Eh ben oui, non. Alors, parce que ça va faire 40 ans maintenant. L'enfant que j'étais, eh ben, j'étais une enfant, j'étais très contente. Pour le coup, alors je me définissais effectivement comme un garçon manqué, ce qui était vraiment le terme de l'époque. Et qui est maintenant, mais si j'avais toutes mes années de féminisme derrière moi, j'aurais dit, mais jamais, mais t'es pas du tout un garçon manqué, enfin, t'es
une fille formidable.
Et du coup, ce qui est très drôle rétrospectivement, c'est que c'est un truc qui faisait beaucoup rire mes parents. Ils en étaient presque un peu fiers, bizarrement. Alors, par contre, quand je leur ai annoncé que j'étais homosexuelle, tout de suite, ça, ils trouvaient plus ça mignon du tout. Enfin, ils ont pas vu le lien. Mais oui, j'étais très, j'étais assez masculine étant petite. J'arrivais pas à être dans le moule. Enfin, pour effectivement, de la princesse, etc. Je me bagarrais un peu pour pouvoir jouer au foot. Et pour le coup, c'était quand même. Très, enfin, je me faisais quand même jarter du groupe de garçons. Mais voilà, donc ça a été, c'était une enfance qui était dans les Côtes d'Armor, un peu dans le Cresquer de la Bretagne. Ce qui a rendu cette enfance aussi tout à fait joyeuse, c'est que j'avais une vraiment meilleure amie qui s'appelait Peggy, et qui, du coup, je pense que... Enfin, en tout cas, elle m'a construite aussi, puisque, du coup, je savais que j'avais toujours un pilier. Donc, peu importe ce qui se passait, parce que, bon, forcément, en primaire, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Mais en fait, j'avais un espèce de gros pilier bien en béton, bien dur. Et en fait, bah ouais, rien n'était grave, parce que, de toute façon, j'étais aimée par quelqu'un.
Tu viens de dire « j'ai été aimée par quelqu'un » et moi, je voudrais reparler de ce cliché plein d'amour, pur, qui m'amène forcément à parler de la parentalité et j'ai même envie de dire la maternalité. Un néologisme, c'est vrai, mais qui semble avoir déjà été utilisé dans les années 70. J'ai trouvé un site qui l'utilise. Donc, je le revendique, je dis « maternalité » car « maternité » est plutôt associée en général au fait de porter un enfant et d'accoucher. Dans le langage courant, c'est plutôt ce qu'on dit. Et ce n'est pas ton cas. Parce non. Que tu es maman, ça ne t'empêche pas d'être maman, mais tu n'as pas enfanté.
Je n'ai pas porté, et je n'ai pas souhaité d'ailleurs porter un enfant. Je vais utiliser le terme, la maternalité.
Mais, t'es pas obligée.
Je ne suis pas sûre d'y penser à chaque fois. Mais oui, c'est quelque chose, pour le coup, j'avais très envie d'être parent. Par contre, effectivement, tout l'aspect grossesse, etc., et mine de rien, changement du corps, je pense que ça m'effrayait un peu. Alors, par chance, Martha, elle, à l'inverse, avait très, très envie de porter, ce qui, du coup, m'a enlevé une belle épine du pied, parce que ça aurait été terrible si on était tous les deux dans mon cas, parce que c'est quand même... oui, c'est énorme, ce... construire un enfant, ça, voilà, c'est vraiment merci Martha de m'avoir fait ces deux deux gros cadeaux. Mais oui, je pense vraiment que ça aurait pas du tout été ma... Enfin, ça aurait été complètement déséquilibré notre couple si les choses avaient été inversées.
Ou si les deux avaient voulu... soit aucune des deux.
Ouais.
Ou soit les deux.
Soit les deux, ouais. Ça aurait
pu poser un problème.
Ouais. Ben... Ouais,
parce que c'est étrange en même temps de se dire ah bah, 1 sur 2, enfin, ce serait bizarre aussi.
Ouais,
non
après, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de couples de femmes qui portent l'une et l'autre un enfant, ce qui en soi, pour le coup, bah, c'est vraiment une. De toute façon, je pense que c'est pire de réprimer une envie de maternité, pour le coup. Ça doit être. Enfin, je pense que si l'envie est là, ça devient chimique, quoi. Je pense
oui.
que ça devient assez compliqué de pas le faire. Enfin, et après, oui, effectivement, nous, c'était, enfin, moi, c'était vraiment très clair dans ma tête. Je pense que j'aurais mal vécu
de devoir le porter.
Ouais.
Mais par contre, c'est un désir depuis toujours de vouloir avoir un enfant.
Non. En fait, enfin, je l'ai pas, je l'avais pas ressenti comme ça. Alors, déjà, quand j'ai rencontré Martha, c'était déjà plus réalisable parce que j'avais trouvé la personne déjà, enfin c'était oui. Je me disais ah oui elle...
oui, t'avais pas forcément envie d'avoir un enfant toute seule.
Non, ça ouais. C'est quelque chose que j'aurais pas, je pense pas que ça m'aurait, enfin, du coup j'ai du mal à me projeter parce qu'on s'est rencontrés vraiment très tôt avec Martha, on avait 20 ans. Donc j'ai pas expérimenté ma vie seule vraiment, mais après, avant, enfin, comme me sachant lesbienne depuis tout temps, j'avais un peu enterré cette histoire-là parce que pour moi, c'était pas possible d'avoir des enfants. Enfin, rien n'était fait dans notre société pour qu'on en ait. Rien n'était fait pour qu'on existe de toute façon.
C'est
donc,
vrai, c'est vrai.
Qu'on soit visible ou pas. Donc, c'est quelque chose que j'avais un peu, j'avais, je pense, inconsciemment fait le deuil. Déjà, je me suis dit autant avorter l'histoire directe. Et en fait, on peut pas. Enfin. Quand le désir arrive, s'il arrive, c'est quand même dur de refouler ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'éduquer quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'était vraiment envie de faire pousser une petite plante, quoi, quelque part. C'était vraiment étrange, je me dis. Et pour le coup, c'est vrai que ça ne passait pas du tout par
la grossesse.
Ouais, par la grossesse. Ouais.
Et ce cliché aussi me conduit vers un autre sujet, mais en fait, déjà, en fait, depuis le début, tu en parles, donc c'est vraiment le sujet des fiertés, parce que les fils de broderie, je voulais bien être sûre que c'était les couleurs symboliques de la marge de fierté et plus globalement de la communauté des LGBTQI+. Mais tu as commencé à le dire, c'est en fait pour toi, non seulement assumer, c'est essentiel, mais il y a une histoire peut-être même de revendiquer ou pas. C'est juste assumer.
Non, il y a aussi. Alors, je suis pas la plus militante. C'est pas bien. Je pense que je pourrais l'être plus. C'est pas. Mais si, revendiquer, parce qu'en fait, alors assumer. Déjà, faut réussir à l'assumer. Donc déjà, bon, ça je l'ai fait, c'est assez chouette. Mais je crois qu'il faut le revendiquer parce qu'en fait, vraiment, on est invisible sur plein de trucs. Rien n'est pensé pour nous. Il y a encore des choses. Alors qu'on est en 2025, hein, je pense qu'il y a plein de gens. Qui se rendent pas compte à quel point... et tant mieux, quelque part. Pour certaines personnes, c'est tellement normal qu'ils se posent même pas la question de certaines choses. Et donc là, effectivement, le mariage, c'est pas si vieux. Enfin, il y a plein de choses où c'est pas si vieux. Et ne serait-ce, en fait, que... Enfin, pour le coup, hors institution... moi, le nombre de fois où, avant de trouver le médecin généraliste que j'ai maintenant, qui est super, mais avant, c'était, c'est n'importe quoi. Quand une médecin gynécologue me demandait si j'avais déjà eu des rapports et que j'avais dit que j'étais lesbienne, elle m'a dit oui, donc, vous êtes vierge. Non, pas du tout.
Oui. Ouais, non, mais c'est ça.
Et en fait, c'est catastrophique. Il y a plein de choses où, en fait, on connaît pas. On connaît pas parce que personne cherche à savoir.
Et même encore aujourd'hui.
Ouais, je pense que oui, pour le coup.
Et t'as quand même vu une petite évolution, vu que tu le sais depuis que t'es toute petite. Est-ce que tu sens quand même un cheminement qui va un tout petit peu dans le bon sens ou...
Ah oui, oui,
Mais il y a encore du taf, quoi.
Il y a encore du taf, mais je pense que pour le coup, il y a surtout du taf maintenant pour les personnes trans. J'ai la sensation que... Alors, tout n'est pas terminé pour les gays et lesbiens, et les queers en règle générale, mais pour le coup, là, je sens que les discriminations, elles sont un peu décalées quand même, et là, c'est vraiment beaucoup pour les personnes trans. Le fait d'avoir le mariage, ça légitimise quelque chose, en fait. Il y a un cadre légal, on ne peut plus dire n'importe quoi.
Et presque, j'allais dire un gros mot, mais ça normalise, entre guillemets, une situation. Puis oui. dans la société telle qu'on conçoit, oui. de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal. Mais le fait, et puis maintenant, ça fait 10 ans, 15 ans.
Ça fait 12 ans.
12 ans. Il y a quelque chose aussi qui, effectivement, rentre dans ce que plein de gens considèrent comme être plus normal, entre guillemets. C'est un très vilain mot. Hein, ce
Moi, j'aime bien dire classique.
Classique, c'est bien. Ouais. Oui, assez plus... Oui, classique, c'est bien. Mm. Tu as raison, c'est mieux. Et alors, pour finir sur ce cliché, moi, j'y vois aussi la joie, et tu l'as dit, le plaisir simple, des choses simples, dont celui de la créativité, de la création. Le fait de produire, est-ce un autre essentiel dans ta vie? Alors, pas en couture, si j'ai bien compris, mais le fait de fabriquer.
Oui, c'est vrai que, pour le coup, sur plein de plans, tant au niveau de mon travail, où du coup, je suis éclairagiste pour des compagnies de théâtre, et... du coup, produire enfin, cette part-là de créativité est importante pour moi. Mais même dans le quotidien, bon, personnellement, j'aurais plus tendance, avant d'acheter, d'essayer de faire. Bon, mais des fois, ça ne marche pas et j'achète. Mais, mais j'essaye de faire quand même d'abord. Et il y a plein de choses, du coup, que je ne fais pas. Parce que je me dis, ah mais non, mais ça, je pense que c'est vraiment réalisable. Par contre, je n'ai pas de temps. Donc, j'ai en règle générale, fait les achats. Tout est dans mon garage. Et il ne reste plus qu'à faire.
Mais ça fait partie quand même de ta construction même de personne, dans ton enrichissement personnel. Oui, quand tu arrives à fabriquer quelque chose.
Ah oui, ouais, carrément. Ouais.
Vous êtes bien dans l'étrange beauté du quotidien avec Anna et moi-même et nous allons maintenant découvrir son choix musical. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour de Vincent Courtois chanté par Pomme ?
Suivant peur, tu vois. Moi.
Entendre Qu'est-ce qu'on fait de l'amour, tiré de la BO du film d'animation de 2022 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, chanson composée par Vincent Courtois et interprétée par Pomme. Je dois t'avouer quelque chose, Anna, je ne suis pas allée voir Ernest et Célestine au cinéma.
Quoi ?
Et je ne la connaissais pas, cette chanson, mais elle m'a prise au cœur direct. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Là, tout de suite, j'aimerais savoir, toi, pourquoi ce choix ?
Eh ben, on a été voir ce film, Noah, alors j'aurais du mal à savoir quel âge elle avait, mais en tout cas, c'était un de ses premiers films au cinéma. Et moi, j'avais lu quelques livres d'enfants d'Ernest et Célestine, j'aimais bien le dessin, etc. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Et en fait, cette chanson, elle me fait vraiment penser... Alors, à ce moment-là, j'avais que Noah, Gabi n'était pas encore née, mais ça marche complètement avec Gabi aussi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment la relation que j'ai avec elle. Et j'ai du mal, des fois, à écouter cette chanson, j'avoue que... Parce que ça m'émeut, parce qu'en fait, c'est vraiment un peu tous les mots que je souhaiterais leur dire, quoi. Et qu'en fait, oui, on ne se ressemble pas, on n'a aucun gène en commun, et qu'en fait, ça n'empêche rien. Vraiment absolument rien, et que je serai toujours là, même si elles m'envoient, enfin même si elles sont contre moi à un moment, enfin bon voilà, je suis toujours là et prête à prendre les coups
qui risque d'arriver.
J'ai
quelques années de maternité,
mais
plus
oui,
que
je
toi
sais que t'as un petit peu d'expérience, mais
et ça arrive.
Voilà.
Et c'est drôle parce qu'une fois de plus, tu convoques le monde de l'enfance en optant pour une chanson tirée d'un film d'animation. Et moi, de ce que j'en ai lu, puisque je ne l'ai pas vu, c'est un film tout en poésie qui évoque l'amitié, mais aussi le libre arbitre et la liberté au sens large. Est-ce que c'est des sujets dont tu avais envie de parler aussi ici ?
Alors, non.
Peut-être c'est... même par le prisme de l'enfant. Enfin, ton rapport, toi, en tant que maman, ça peut être par ce prisme-là aussi.
Ouais, après, c'est... Alors, je n'avais pas pensé forcément en parler, mais je trouve que c'est intéressant, par contre, d'en parler, parce que c'est vrai que là où je me confronte dans la parentalité, c'est que y a toujours ce grand livre de la théorie d'avant-naissance, qui déjà prend un bon coup dans la couverture au moment même de la naissance, d'ailleurs, le jour même. Mais du coup, oui, avant, ce sera des enfants indépendants, je ferai jamais les mêmes choses que mes parents. Et en fait, des fois, je me dis, mais quand je réfléchis, j'ai l'impression d'être des fois encore plus réactif que mes parents. Et ça me fait peur parce que je me dis, non, c'est nul. Mais en fait, j'avais pas mesuré l'angoisse que c'était d'être parent. Et pour le coup, j'essaye d'inculquer que. À mes filles que c'est leur choix, effectivement, seul leur choix et pas l'intuition des autres qui doivent les guider. Mais des fois, c'est démagogue un peu parce que j'essaye de guider leur choix. Elles sont petites, bien sûr. Mais en fait, quelque part, il y a une espèce de truc de me dire... j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'elle va me dire si jamais elle veut faire HEC ? Qu'est-ce que je vais répondre à ça, enfin ? Oui, vas-y, fais la chaussée, ça me pose d'autres problèmes.
Les films d'animation peuvent servir à ça aussi.
Oui, complètement.
Parce qu'on sait aussi qu'un enfant ne se construit pas qu'avec le regard du papa, de la maman, ou des deux mamans, ou des deux papas, ou de la maman toute seule, ou du papa tout seul. C'est qu'il y a un faisceau tout autour d'elle. Et je pense que, pour le coup, l'art, le cinéma, ça peut aider aussi.
Oui, et surtout que pour le coup, alors par rapport à un voyage en Charabie, c'est que Célestine, c'est une fille aussi, parce que Bon, des films d'animation où c'est des garçons les héros, etc. Ça, il y en a à l'appel, hein, franchement. Mais c'est vrai que ce personnage-là de Célestine, c'est une petite. Enfin, vraiment, il y a le côté un peu petite bonne femme qui. qui montre qu'en fait, c'est l'intention qu'on a qui va remporter le tout, peu importe l'enveloppe dans laquelle on est, quoi. J'espère que oui, quand je revois ce film avec elle, parce que je pense qu'il est vraiment très bien.
Et une fois de plus, tu convoques le thème de l'amour, même si pour moi, ce n'est plus du même amour qu'il s'agit. Et c'est là que c'est drôle, entre ton choix à toi et moi. Ma première réaction, et tu vas comprendre pourquoi moi, ça m'a été une grosse claque, j'ai eu du mal à l'écouter, pour tout te dire.
Okay.
Tu nous as parlé tout à l'heure de l'amour maternel. Tu viens d'en reparler, c'est ton choix. Et en fait, moi... Ton choix m'a bouleversée parce que j'ai carrément eu la sensation que tu t'adressais directement à ton amoureuse, que tu lui faisais une véritable déclaration d'amour, comme si cette chanson racontait votre histoire. Je vais pleurer, ça y est. Est-ce que je me trompe complètement ? Bah oui, mais en même temps.
Non, tu ne te trompes pas complètement, mais alors, comme ça, c'est vraiment un.
Bon, il faut préciser que Martha est quand même une de mes meilleures amies, ça, on l'a pas
voilà.
dit.
Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
C'est vrai, on ne s'est pas dit.
Comme j'avais regardé ce film-là avec Noah, avec Martha aussi, mais c'est vrai que ça a forcément tout de suite mis le prisme de la relation parent-enfant dans cette écoute. Mais complètement, ça peut complètement être des mots pour Martha, même si je pense que Martha souhaiterait plus que je mette du Patti Smith là-dedans.
Oui. Ah non, mais les paroles, elles sont...
Bien sûr.
Même, surtout, j'avais envie de dire, dans votre contexte actuel, c'est... Enfin, quand tu parlais de piliers solides en amitié quand tu étais petite...
Moi, j'ai retrouvé un bon gros pilier, mais là, c'est même carrément des fondations d'immeubles que j'ai avec ma compagne. Donc là, la terre peut arriver droit sur moi, il n'y a pas de problème.
Et un mot sur votre rencontre, peut-être, alors, parce que ça commence à... ça commence à faire un bail, mais tu l'as dit, ça fait 20 ans. Vous étiez jeune. Je voulais te savoir si tu savais déjà que tu étais homosexuelle. Tu nous l'as déjà dit. Donc toi, c'est depuis le bac à sable.
Ouais.
Est-ce que c'était le cas pour vous deux ? Enfin, comment s'est passée cette rencontre ?
Non, je crois pas pour Martha. En fait, on avait une amie commune, Sarah, moi j'étais au collège-lycée avec elle, on avait décidé de faire une colocation toutes les deux, et Sarah était en fac de lettres avec Martha, et elle m'a dit, écoute, voilà, elle est super sympa, est-ce que ça te dirait pas une coloc à trois, tout ça, et on s'était rencontrés au bar en transe, on a vraiment tout de suite accroché.
Il y a 20 ans,
là, il y a...
Parce que là, c'est les trans.
Il y a 21 ans, oui.
Ah, oui.
Du coup,
ah, ouais.
C'était un an avant. Ouais. Et ça a tout de suite matché. Après, du coup, j'étais typiquement dans le moment de mon homosexualité où je me disais, de toute façon, je tombais amoureuse exclusivement d'hétérosexuels. C'était presque un critère, j'ai l'impression, inconscient, je sais pas. Mais et du coup, je me suis dit, tant pis, elle sera jamais amoureuse de moi, mais que veux-tu au moins, passons des soirées ensemble, c'est très sympa, on se marre bien. Et au final, donc, on a fait cette coloc. Et cette coloc a très, très bien fonctionné. Puisque nous sommes rentrés, j'imagine, début septembre. Et on est officiellement sortis ensemble, parce qu'on disait ça à cette époque-là, le 14 novembre. Donc, ça a quand même été assez rapide. Et c'était vraiment toutes les soirées qui se rallongeaient. Et vraiment, je ne sais pas si tu te souviens de cette émission... histoire naturelle, parce qu'on regardait la télé à ce moment-là.
Non.
Et ça avait un générique assez affreux qui faisait tin, tin, ta, 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 ta. Et donc c'était un truc de chasse, c'était vraiment hyper étrange. Et ça passait à 4h du matin. Et vraiment, on discutait. Et quand on entendait ça à la radio, enfin à la télé, on se disait waouh, il est déjà à 4h, il faut vraiment qu'on se couche. En plus, Sarah va bientôt se lever. Et voilà. Et du coup, c'est. Donc on a commencé par partager un quotidien. Et du coup après on ne s'est pas posé la question de prendre un appart ensemble puisque c'était déjà le cas. On savait que ça allait bien marcher.
Classique, pas classique, un peu classique, un peu.
Oui, voilà.
La première partie de l'émission L'étrange beauté du quotidien, pleine de tout un tas d'amour, touche déjà à sa fin et il va te falloir à présent te prêter au jeu suivant. Et sera-t-il plus troublant pour toi ? Anna, je vais te montrer mon choix photographique. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, tout comme les auditrices. prends le temps qu'il te faut pour l'observer. Et comme tout à l'heure, tu vas pouvoir décrire la photo le plus possible, expliquer ce que tu vois.
Alors, on est manifestement sur l'arrière d'une buvette ou d'un bar, parce qu'il y a une tireuse à bière avec foule de gobelets éco-responsables. Il y a une femme au centre de l'image qui porte un t-shirt noir avec marqué « More Women Backstage ». Là, tu auras noté mon formidable accent anglais. Des fûts de bière, un frigo. On voit qu'il y a une petite pancarte qui indique que c'est le bar de la salle de la cité. Donc, la blonde est à 3 euros. J'imagine que c'est en pinte, ça doit être 10. Ah, l'IP est beaucoup plus cher. 3,50€. Le vin, 3,50€. La ginger beer, 3€. Et les softs, 2,50€. Ça va, c'est encore moins cher d'être Sam à la barre de dans le bar de la cité.
J'aime beaucoup ton sens du détail.
Et il y a une petite télévision très vintage. Il y a un tube cathodique au-dessus du frigo. Donc, je pense que ça date quand même peut-être un peu. Et il y a un beau projecteur qui éclaire toute cette scène qu'on voit un tout petit peu en haut.
Et alors, est-ce qu'il y a une émotion ou un mot ou une idée qui a surgi en voyant cette image? Ou plus simplement, est-ce qu'elle t'évoque quelque chose?
Elle m'évoque du coup les salles de concert. Alors, en général, moi, je côtoie rarement, parce que moi, je fais vraiment plus du théâtre, mais ça m'arrive d'être en musique et du coup, que je connais plus côté technique, côté plateau. Et sinon, en vrai, c'est un lieu que je fréquente quasiment pas parce que je ne bois pas d'alcool et que le bar, pour moi, c'est une espèce de d'obligation. Alors surtout, tous les gens concluent un peu notre journée de travail en disant « on va se boire une bière ». Et en fait, à chaque fois, je me dis « mais moi, j'ai pas envie de boire des coups. J'ai envie de manger du saucisson. »
Oui, mais même boire un coup en soft, si on te et disait « j'ai envie d'aller, on va se boire un Orangina ou un Coca et on va prendre du saucisson », là, même le saucisson, non, ça marche pas.
Eh bien, je suis plus resto que, ouais. Pour le coup, à table, oui. Mais alors, bizarrement, dans un bar, je suis parasitée par le bruit ambiant et que j'ai vraiment du mal avec... Alors, hyper pénible, il me faut genre un petit salon de thé, enfin vraiment... vraiment pas rock'n'roll du tout, quoi. Là, on est sur... Non. Et maintenant, je l'assume un peu plus. Quand je suis au début, quand j'étais en tournée, j'osais pas trop faire la salle qui était la seule à pas aller boire un coup, mais en fait, en vrai, j'aime pas ça. Et du coup...
Et t'as le droit.
Et j'ai le droit.
Oui. Eh bien, figure-toi que cette photo, elle a à peine une semaine.
Ah bon ?
Et pour la première fois dans cette émission, je ne l'ai pas choisie dans ma collection personnelle, mais je l'ai prise exprès avant que tu m'envoies la tienne. Samedi soir, j'étais à la salle de la Cité, une institution à Rennes, oui. Même si, comme toi, j'y suis quasiment jamais allée, pour une soirée concert, là j'y étais, et en voyant le t-shirt de cette femme, je me suis précipitée sur mon téléphone pour graver l'instant. Mon choix était fait, surtout que je voulais absolument que tu nous racontes ton parcours professionnel. Évidemment, là, c'est le lien.
Là, c'est voilà. Le lien. Bon, voilà. Backstage, carrément. Et mon parcours professionnel, du coup, moi, j'avais fait une licence d'études théâtrales, là, dans le bâtiment B, que je vois juste en face. Et en fait, assez vite, du coup, je me suis dirigée vers une formation technique qui est à Nantes, enfin, à côté de Nantes, à Carquefou, qui s'appelle STAFF, qui est vraiment une formation d'un an pour devenir technicien lumière, ou son. Mais moi, c'était en lumière que j'ai fait ça. Et après, je suis revenue dans le réseau rennais par le TNB, etc. Et de fil en aiguille, j'ai pu intégrer des compagnies et partir en tournée. Et c'est vrai que More Women Backstage, c'est... À Rennes, ça va. En théâtre, on est pas mal. On est vraiment beaucoup. Après, quand en tournée, je vais dans le sud... On est de moins en moins.
Mais comment on devient technicienne? Est-ce que tu as toujours voulu exercer ce métier?
Non, je savais que je voulais être dans le théâtre, mais je ne savais pas...
Devant ou derrière?
Ouais.
Ouais.
Alors, ouais. J'ai quand même vite compris que j'allais être derrière, mais devant, je l'ai quand même envisagé. Mais c'était même aussi le côté administratif que j'ai envisagé. J'ai vraiment... Tout était OK.
Un peu plus dans l'ombre.
Oui.
Ouais. OK. Mais, pardon, vas-y.
Non, mais oui, tant que c'était vraiment le théâtre, pour le coup, théâtre public. même. Et,
oui, donc moi, tu l'auras compris, en fait, c'est pour le t-shirt, hein, c'est pas bien pour le bar.
Non, non, bien sûr, du coup.
Mais très pragmatiquement, et c'est comment tu gères aussi les tournées, le rythme. Est-ce que c'est difficile de passer d'un spectacle à un autre, d'une équipe à une autre, d'un lieu à un autre, et d'autant plus que, comme tu nous l'as expliqué dans la première partie de l'émission, tu as une vie de famille qui est un essentiel, qui est très importante pour toi.
Ouais. Alors, en soi, dans le travail, non, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un problème de passer d'une équipe à l'autre. C'est même ce qui me plaît pas mal dans le métier. C'est de, en fait, c'est du coup des rencontres très courtes qui, du coup, vont très vite. On peut vraiment rire et partager des choses très fortes au bout de 3 heures et puis bah, se dire à minuit, on a démonté, puis on se reverra jamais. Donc, c'est une espèce d'ascenseur... social qui est... enfin
émotionnel
presque.
Le rire
oui,
c'est
mais
quand même une émotion.
Ouais, c'est vrai. Ouais, pour le coup, elle est tellement intégrée que
je t'embête. Hein.
Mais du coup non, ça c'est ce que j'aime bien pour le coup. Et puis alors c'est des équipes d'accueil qui accueillent nos spectacles, mais en fait il y a toujours la même équipe du spectacle. Pour le coup, il y a quand même des choses. Et à l'inverse, je peux aussi changer de spectacle au cours de la semaine, repartir sur un autre, etc. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien et qui, pour le coup, que je trouve pas compliqué. Pour la vie de famille, effectivement, les tournées, c'est compliqué. Alors pour le coup, c'est grâce à Martha, ça l'est beaucoup moins, mais ça pose quand même des questions parce que en fait. Avant, j'arrivais à avoir un rythme un peu plus... à faire un peu plus 50% de travail en accueil ici sur Rennes et partir 50% en tournée. Et là, on est plus sur un espèce de mauvais ratio de 85-15, voire 90-10.
Ah oui.
Et, ouais. Et du coup, c'est d'autant plus compliqué que Gabi, ma dernière, n'a pas encore 3 ans. Mais après... ça c'est, enfin, Martha a pris un congé parental, donc il a fallu, mine de rien, vu que c'est immondement financé, c'est une catastrophe, c'est moins que le RSA, donc ouais. Là, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Il a fallu que je prenne plus de tournées parce que honnêtement, c'est la tournée qui paye le mieux plutôt que de l'accueil. Donc on est dans l'espèce d'effet qui se coule, de se dire, bah, comme j'ai pris beaucoup de tournées, bah, je ne peux pas arrêter mes engagements et j'ai du mal à redescendre un peu. Voilà, j'essaye vraiment d'être là quand il le faut. J'espère, Martin, que je suis là quand il faut. Alors, évidemment, les filles sont toujours malades quand je suis en tournée. La chaudière tombe toujours en panne quand je suis en tournée.
Normal.
Et voilà, c'est toujours comme ça.
Et bien sûr, impossible de ne pas parler de toi en tant que technicienne dans un microcosme encore ultra masculin, même si tu as dit qu'à Rennes, c'était quand même pas si mal. Comment fait-on entendre son féminisme dans ce monde-là ?
Eh ben, alors, je pense que tu aurais 2-3 techniciennes, on aurait peut-être 2-3 réponses différentes. Pour le coup, ma réponse sera vraiment une réponse personnelle, que je n'engage pas les autres.
En même temps, c'est ton histoire à toi. Oui.
Alors, effectivement, déjà en Bretagne, on est quand même beaucoup. Et moi, je n'ai pas senti de... Alors, hormis, pour le coup, un régisseur mais qui avait 60 ans, et vraiment, c'est un problème de génération... qui en plus clairement assumait le fait qu'il trouvait que les femmes n'avaient pas leur place. En vrai, c'était dit. Donc bon, au moins, il n'y avait pas de questions à se poser. Mais vraiment, en Bretagne, je n'ai pas ressenti du tout de problème, enfin de problème, de questionnement de ma place, en fait. On est vraiment, au TNB, par exemple, on est vraiment beaucoup, quoi. Et ça ne fait pas... jamais nos compétences sont remises en question. Et en fait... Moi, pour le coup, je pense que je ne genre pas les choses. Et quand j'ai subi de la misogynie, j'ai mis du temps à comprendre que c'était de la misogynie. Je ne comprenais pas où était le problème. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai réalisé que c'était parce que je suis une femme, je me suis dit, mais il est complètement malade. Ça va pas ou quoi ? Et en fait, je n'arrive pas à comprendre une chose qui ne peut pas... une action qui... Enfin, je veux dire, utiliser une console, on n'a pas besoin de nos seins, ils n'ont pas besoin de leur appareil génitaux. C'est vraiment de l'intellect, donc je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse penser que je n'en suis pas capable.
Parce que tu as des seins.
Bah oui, et du coup, pour moi, il n'y a vraiment pas... Enfin, vu que j'ai toujours envisagé d'être avec une femme, ou d'être seule d'ailleurs, je vais plus envisager ça au début, mais... je me suis dit qu'il fallait que je me débrouille de toute manière par moi-même, et en fait, quand j'ai besoin de faire quelque chose, j'apprends à le faire, je le fais. Et pour le coup, enfin, des fois, je rate, hein, donc j'appelle quelqu'un. Mais en tout cas, jamais je me dis, bah, j'y arriverai pas, c'est vraiment un truc de mec.
Entre guillemets, évidemment.
Oui. Enfin, c'est ce qu'il se dit. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, c'est très simple pour moi d'être technicienne dans un spectacle, parce que je me pose pas du tout la question d'être une femme sur un plateau.
Mais peut-être aussi parce que tu assumes pleinement juste la personne que tu es, non ? Tu crois pas ? Parce que tu donnes vraiment l'impression, là, le fait de discuter avec toi, de connaître, de savoir que t'étais homosexuelle depuis toujours, d'avoir une position, je sais pas, t'es droite dans tes bottes, un truc, ou peut-être aussi que c'est ce que tu dégages qui fait que, non ?
Je sais pas. Non, je pense que... Alors, je sais pas. Je saurais pas répondre à cette question, Eva.
Elle m'est venue comme ça, désolée.
Non, pour le coup, c'est sûr que c'est pas dans ma famille qu'on m'a appris à être féministe, hein, parce que, sans que ce soit catastrophique, je viens d'une famille catholique, bretonne. Donc vraiment, un espèce de classique d'un truc patriarcal sans... Sans violence, mais un modèle patriarcal quand même. Donc, c'est vrai que c'est pas là où j'ai appris ça. Mais je pense que l'homosexualité a quand même joué, puisque je savais que ça allait poser problème avec mes parents. Donc, je savais qu'il fallait que je me fasse. Et du coup, je me gère, me seule.
Et c'est peut-être ça, en fait, dans ma question. Je me blinde un peu, quoi.
Oui, je pense
que... Très jeune, t'as appris un peu à te protéger.
En tout cas, être sûre que je puisse me débrouiller seule.
Et c'est plus difficile d'attaquer quelqu'un qui est déjà protégé. C'est peut-être de cet ordre-là. Voilà,
Voilà.
Je vous propose de terminer notre route avec mon choix musical, qui ne te surprendra sans doute pas tellement, Anna, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Gardons le mystère encore une seconde. Pushing through the market square, so many mothers crying. News had just come over, we had 5 years left of sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to get everything in there. And so many people, all the short, fat people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off her head, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed the stair to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in my song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there to face your race, the way that
watch you walk, I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We've got 5 years stuck on my eyes, 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot, 5 years, that's all we got.
Vous venez d'écouter David Bowie avec 5 Years, le morceau d'ouverture de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, sorti en 1972. Tu verras, mon accent aussi est merveilleux. À chaque fois que j'entends David Bowie, je pense à toi. D'abord, d'où te vient ce goût pour cet artiste assez incomparable ? Parce que tu l'aimes quand même.
J'aime cet artiste, David Bowie. J'avais un t-shirt même, David Bowie. Je ne rentre plus dedans et je suis bien déçue de ça. Mais je l'avais déjà acheté trop petit, si je peux.
Mais tu l'offriras à une de tes filles.
Oui, c'est vrai. je pense que je l'avais aussi découvert via Queen, parce que tu sais... je chante très bien, mais qui chante avec eux ? Je sais pas, il y a un truc avec la voix de David Bowie, alors particulièrement sur Life on Mars.
Oui.
Cette chanson, à chaque fois, elle me prend et elle est... Enfin, voilà, c'est vraiment un truc... parce que moi, je suis pas bonne en anglais, donc c'est pas les paroles qui me transcendent tout de suite en écoutant, parce que je ne comprends pas les paroles quand je les entends. Voilà, il faut que je fasse la recherche, etc. Mais non, il y a un truc dans la puissance vocale, et je pense aussi dans... Ouais, dans cette... Enfin, les arrangements. Je pense que de toute façon, j'aime beaucoup les musiciens de cette époque-là. Dans les années 70, c'est quand même plus ce que j'aime. Mais oui, je pense que c'est quand même sa voix que j'aime le plus.
Et j'ai choisi cette chanson parce que je l'ai découverte très récemment, le 21 juin même, tu vois, au Festival Photo de l'Agassi. Et qu'elle me suit depuis. Elle s'est glissée dans un de mes podcasts de l'été. Et fin septembre, quand j'ai vu Léonie Pernet en concert, un de ses musiciens l'a chantée, car nous avions un événement à fêter, l'annonce des 50 prisons de Sarkozy. Et je trouvais que c'était une belle façon de continuer à la faire vivre dans mon quotidien, comme une petite étoile, tu sais, qui me suivrait ou qui me guiderait vers un inconnu.
Un bonbon.
Oh oui, pourquoi pas. Et alors moi, je voulais savoir si tu partageais l'idée que parfois la vie nous envoie des drôles de signes. Parce que pour moi, j'y vois vraiment... je suis très sensible à ces petits signes-là où tout d'un coup... Alors je pense que c'est aussi le cerveau qui fait plus attention.
Qui cherche à mettre l'accent sur...
Mais... Je crois que tu es peut-être plus pragmatique.
Mais
parlons-en tout de même.
Oui, de mon côté... cartésienne. Et mais c'est bien parce que, pour le coup, Martha ne l'est pas. Enfin, si, elle est cartésienne, mais elle est plus ouverte à la spiritualité. Et du coup, j'apprends. J'apprends. Alors, je n'adhère pas à tout, mais en tout cas, j'entends que ce genre de choses, bah, ça fait. pour certaines personnes, de savoir que ça existe, que c'est quelque chose de présent, ça procure du bien. Et moi, je suis pour toutes les choses qui procurent du bien aux gens, en général, peu importe si moi j'ai un repas. Mais quand même, il y a des trucs où, effectivement, je vois bien qu'il y a des choses où on se dit, bah oui, forcément, là, quand on veut voir un truc, on le voit, c'est pas possible. Quand on avait, pour la première tentative d'insémination pour Noah, donc en Belgique, puisque du coup elles ont été conçues à Liège. On avait déjà choisi le prénom de Noah, si c'était une fille, mais on avait déjà ce prénom-là. Et en fait, on le voyait partout. Et vraiment, ce jour-là, on l'a vu écrit partout, même sur un extincteur, mais un vous savez, ces gros tuyaux qu'on appelle des RIA, qui sont espèces de gros tuyaux entourés, qui sont sur un truc rouge dans les murs. Enfin bref, en tout cas, même ça, la marque de ce truc-là, c'était Noah. On s'est dit, mais c'est pas possible, ça va forcément marcher. Ouais. Le matin, on a eu des fraises au petit déjeuner. On était alors c'est vraiment le cliché de la grossesse et tout. Bon, ça n'a pas marché.
Mais là, t'y as cru quand même. Oui. Là, les signes, t'avais bien envie.
C'est marrant quand même,
ouais.
C'est marrant.
Ouais. Bon, et cette chanson, elle est poignante. Je n'avais pas vraiment fait attention aux paroles avant de préparer l'interview. Et waouh, c'est comme une sorte de dystopie cauchemardesque. La fin du monde qui approche, avec en filigrane déjà l'inquiétude sur l'état de l'humanité, l'écologie, la violence de nos sociétés. En fait, les 5 years, et il apprend qu'il reste 5 ans à vivre.
Ah oui.
Et du coup, il décrit dans sa chanson les réactions un peu de tous les personnages de la société. Une femme qui a envie de taper des enfants, un homosexuel, je ne sais plus ce qu'il fait. Enfin, il y a vraiment, en une chanson comme ça, il décrit les réactions complètement disproportionnées de cette nouvelle. Et moi, j'y vois aussi justement son inquiétude sur l'état de l'humanité. Et je voulais savoir, toi, le regard que tu portais sur tout ça.
Ben, il n'est pas bien joyeux,
ouais,
quand même.
C'est global, hein, c'est une question très générale, mais...
Non, pas joyeux, parce que... Là, y a vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'en fait, on était un petit peu au bord d'une falaise, et bon, la pierre s'érode un peu, s'effrite un tout petit peu. Là, il y a quand même des gros pans qui se cassent d'un coup, quoi. Hein. Là, il y a plusieurs maisons qui sont parties à la mer, enfin... Je trouve que ça va vite, l'escalade, elle va vite. Il y a plein de, c'est le festival du quiproquo en plus, donc il y a une espèce de truc où au début on essaie de lutter, de dire bah si, enfin ça c'est pas possible de laisser passer ça, etc. Et en fait, typiquement en fait par rapport là, moi tout de suite ça me fait penser à Gaza, etc. Et de me dire que en fait, ça devient dur d'exprimer en public le fait d'être de compatir. Même compatir, c'est vraiment le seul truc qu'on arrive à faire.
Même la compassion. Oui.
Avec ce qui se passe pour les Palestiniens et la peur d'être taxé d'antisémitisme. Et ça me fait peur parce que je me dis, ça me briserait le cœur quand on me traite de ça, parce que je fais pas l'amalgame entre Netanyahou et les Juifs. Enfin, jamais je ferais ça, quoi. Et en fait, pour le coup, c'est un truc dont je parle avec Noah, qui s'intéresse à ça. Et c'est vraiment important. Là, je me rends compte à quel point choisir les mots et trouver les bons mots et faire prendre conscience à un enfant qu'en fait, non. Il y a un mot, c'est pas un mot pour un truc en règle générale. Là, il faut vraiment taper juste, parce que sinon ce que tu dis, ça peut être mal perçu. Et oui, enfin moi, il y a des trucs qui, ce qui me choque le plus, c'est que vraiment le capitalisme
toute nuance.
Ouais.
Le monde est en train de devenir totalement binaire. Quoi.
Ouais, ouais. Là, effectivement, il n'y a plus de nuance. Il y a peu de respect dans la parole publique aussi. Enfin, il n'y a pas d'écoute. Et en fait, c'est pas possible. C'est une société qui ne s'écoute pas. Enfin, on ne peut pas avancer.
Et cette chanson, il l'a écrite, lui, à un moment personnel très difficile, mais j'y entrevois aussi, et malgré tout, une touche d'espérance. Et qui va finalement avec ce qu'on vient de dire, c'est l'idée de l'urgence de vivre. Il nous reste peut-être peu de temps, alors soyons dans la vie. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là, toi aussi? Ou est-ce que tu te sens parfois frustrée avec la sensation de ne pas... Alors, profiter, ce n'est pas profiter, c'est au sens global, être vraiment dans l'instant, savourer. Est-ce que tu as des moments de frustration ou est-ce que tu es plutôt dans cette, entre guillemets, urgence de vivre?
Non, je pense que je suis quand même... Je suis quand même dans cette dans ce présent là parce que effectivement je vois que là enfin autant il y a 10 ans j'aurais pu dire non mais demain sera fait de ci de ça là honnêtement au jour J je ne sais pas ce qui va se passer en mars, je ne sais pas ce qui va se passer aux prochaines élections et du coup là oui effectivement faut profiter parce que là au niveau de la culture ça ferme les vannes, enfin de toute façon ça ferme les vannes partout mais là, effectivement, je vois par le spectre. Donc, je ne sais même pas si je ne vais pas devoir changer de travail à un moment donné. Ce qui ne m'angoisse pas. Mais en fait, on ne sait pas. Donc, effectivement, il faut trouver de la joie. Parce que je pense que sinon, on va tous devenir complètement agressifs et anxieux. Et que ça ne peut rien apporter de bon. Il faut trouver de la joie. Ce n'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que... Puis, d'autant plus, enfin, on a du côté de Martha, on a malheureusement vécu pas mal de deuil et en fait, oui, ça renforce. De toute façon, à chaque personne qui vit un deuil, ça renforce le côté genre, oh, mais faut se dire les choses, il faut les vivre maintenant. C'est pas demain, après-demain qu'on va. Et en fait, de se prendre deux claques là comme ça. D'affiner, on se dit, eh ben oui, non, mais là, la théorie que j'avais déjà pour le premier décès, on va l'appliquer au deuxième parce qu'on perd trop de temps. On perd, et en fait, ça prend pas beaucoup plus de temps de dire aux gens ce qu'on pense vraiment d'eux. Un petit message. Et puis, en fait, et voilà, il n'y a pas forcément besoin de. C'est pas. Ça demande pas ça demande pas beaucoup d'efforts, en fait, en vrai.
C'est tellement, ça peut tellement donner plus.
Enfin, oui, je pense que ça, c'est la petite boule oui, de, des fois de neige juste, qui dévale. Oui.
Donc l'urgence de vivre, ça te parle un peu.
Oui.
Ouais. Déjà, moi j'entends le tic-tac de la fin de l'émission qui approche. Et avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous lises un extrait de texte que tu avais envie de partager. Je pense qu'on devrait avoir le temps de... Tu as peut-être envie de nous dire pourquoi tu as choisi ou pas.
Alors... Moi, ça va être, c'est complètement dans la continuité de... Je suis désolée, je suis obligée de rallumer, mais j'avais préparé les trucs. Et évidemment, les données mobiles sont nécessaires quand même. Et c'est dans la continuité de, bah, pour le coup, de ma vie et du mariage pour tous. Pour le coup, c'est la déclaration de Christiane Taubira après le vote du mariage pour tous. C'est ça que j'avais envie de lire parce que c'était vraiment une période terrible. Moi, en 2013, on avait 28 ans. On était, le ciel était bleu, etc. Tout, on était, Martha venait d'avoir été titularisée. Enfin, tout allait bien. Et vraiment, ce moment du mariage pour tous, c'était le nuage noir quoi, qui est arrivé. Les vannes se sont ouvertes. Tout le monde disait des choses pénalement répréhensibles. Et c'était OK. Mmh. Et vraiment, ça a été un déferlement de haine. Nous, on manifestait bah, forcément côté mariage et j'ai vu des banderoles que je ne pensais même pas voir. On était sur Paris à ce moment-là, mais sur des églises, c'était marqué « Nous, on ne baisse pas avec des chèvres ». Et je reviens, bah, moi non plus. C'est peut-être étonnant, mais moi non plus. Du coup, voilà, c'est vraiment un moment politique qui, pour moi, a été fort. Donc, j'avais envie de partager son discours de fin de vote. Je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. J'espère être néanmoins capable de vous dire combien je suis reconnaissante au Premier ministre et au Président de la République de nous avoir offert la chance de conduire cette très belle réforme, de la conduire avec force, de la conduire avec la confiance constante du gouvernement, de la conduire avec votre participation active, mesdames et messieurs les députés. Vous avez amélioré le texte, vous l'avez enrichi, vous avez été fortement présent durant de longues nuits, stoïques, à entendre des propos parfois absolument insupportables qui heurtaient nos valeurs profondes et notre éthique. Mais nous avons eu aussi de très grands et de très beaux moments de démocratie. Nous avons vu dans l'opposition des parlementaires qui se battaient, qui faisaient valoir leur position forte et ferme avec des arguments de fond. Nous leur en savons gré, ces interventions-là resteront aussi dans l'histoire. Nous savons désormais que nous savons bâtir ensemble. Nous savons que nous n'avons rien pris à personne. Nous nous sommes interrogés lorsque les premiers questionnements se sont exprimés dans la société. Nous nous sommes demandé si nos convictions suffisaient. Nous avons écouté attentivement les inquiétudes et les protestations et nous nous sommes efforcés d'y répondre lucidement, franchement, clairement, en prenant appui sur le texte. Nous nous sommes demandé ce qui était le plus précieux pour les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales. Nous savons que c'est d'abord le lien biologique et nous n'y avons pas touché. Nous savons qu'ils sont très attachés à la présomption de paternité et nous n'y avons pas touché. En revanche, nous avons amélioré l'exercice de l'autorité parentale et facilité son partage. Nous avons protégé des milliers d'enfants. Nous avons fait en sorte qu'ils puissent maintenir le lien avec un parent en cas de séparation conflictuelle, y compris hors mariage. Nous avons élargi pour les futurs époux la possibilité de choisir eux seuls, non les mères, le lieu de la célébration du mariage. Nous savons donc que nous n'avons rien ôté à personne, qu'au contraire, nous avons reconnu par ce texte le droit de nos concitoyens dans la citoyenneté, dont la citoyenneté était sournoisement contestée, et aussi ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que nous avons voté aujourd'hui, et nous nous en savons définitivement gré. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, des gestes, des actes, leur dire qu'ils sont pleinement dans la société et que la responsabilité de la puissance publique est de lutter contre les discriminations. Que c'est une exigence du pacte républicain. Lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun, ainsi que les plus belles institutions de la République. Et nous voulons dire en particulier aux adolescents de ce pays qui ont été blessés, désemparés de ces derniers jours, plongés dans un désarroi immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils ont toute leur place dans la société, que nous les reconnaissons à leur place dans la société avec leurs mystères, avec leurs talents, leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est cela la singularité de chacun d'entre nous, indépendamment de toute question sexuelle. Chacun d'entre nous est singulier, c'est la force de la société, c'est même la condition de la société, la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez ces paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous, gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. Merci à vous tous.
Un grand merci Anna pour tout, tellement contente que tu as accepté de venir malgré ta pudeur. Tiens, on n'en a pas parlé de la pudeur d'ailleurs, ni de savoir si toi aussi tu étais têtue. Tu vas être obligée de revenir, dis-moi.
Oh oui, d'accord.
Plus sérieusement, tu nous as montré, comme chaque invité, que la poésie, la beauté étrange des petits riens sont dans chaque vie. Je remercie Thibaut pour la création du générique et Isa pour avoir prêté sa voix. Merci aussi à Émilie, à la technique de cette émission pour la première fois. Et vous, chers auditeurs, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle histoire de vie à découvrir.